Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews culture et histoire de Timeline. Aujourd'hui, en partenariat avec le Salon Histoire de Lire à Versailles, j'ai la chance de recevoir Patricia Bouchenaud-Deschins. Bonjour Patricia.
Merci de m'accueillir, je suis ravie.
Je suis ravie. Pour le livre J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau, il fallait oser un long titre, même si ça vient évidemment de Rosa Bonheur. C'est rare les longs titres, hein. Ça devient rare.
C'est rare, oui. Surtout que je ne l'ai initialement pas choisi, je voulais l'appeler simplement La lionne au corps d'oiseau. Et mon éditeur, très justement, a dit, mais comment avez-vous pensé à... Pourquoi ce titre ? Et j'ai dit, parce que une des dernières lettres écrites par Rosa Bonheur à son frère, Isidore, elle écrit « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau ». Et je trouvais que c'était absolument magnifique d'écrire ça à 77 ans. Je trouvais que c'était très... un signe très tonique pour nous tous.
Ce qui prouve que les éditeurs ne lisent pas les livres. Parce que c'est
ça prouve, oui.
Bien sûr, je plaisante, évidemment. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous pour écrire cette histoire ?
Plusieurs choses. D'abord, j'ai des racines à Bordeaux. Mon mari habite pas loin de chez
Rosa
Bonheur.
Rosa Bonheur est née à Bordeaux.
Voilà. Et puis, Rosa Bonheur, c'est un nom bien connu pour ceux qui connaissent l'histoire de l'art. Et notamment, dans ma belle famille, en fait, ils sont très liés à David d'Angers. Et donc, bien évidemment, ils connaissaient Rosa Bonheur. Donc ça, c'était un clin d'œil. J'ai eu l'occasion surtout, j'ai été contactée par la propriétaire du château Rosa Bonheur il y a maintenant un peu plus de 4 ans pour l'aider à animer le château et pour sauver le parc. Et donc, elle m'a demandé de m'y intéresser et on s'est vu longuement et elle m'a dit « Mais pourquoi n'écririez-vous pas un livre sur Rosa Bonheur ?» J'étais plutôt dans le 17e et le 18e siècle, c'était quand même mes champs de recherche, mais c'est un siècle quand même que je connais bien. J'ai pris un certain temps et quand j'ai découvert des sources nouvelles en cherchant des sources pour restaurer ce parc et sauver ce parc, quand j'ai découvert toute cette masse de choses inédites, je me suis dit tiens, il n'y a pas matière pour écrire une nouvelle biographie, parce qu'il y en avait une qui avait déjà été écrite il y a 10 ans. C'est trop tôt. En revanche, il y a vraiment une matière romanesque incroyable, puisque j'ai découvert deux choses. Le secret de la naissance de Rosa Bonheur et puis le secret de ce grand amour qu'elle a soigneusement caché, puisqu'elle n'a laissé dans ses mémoires qu'une seule phrase. Bien des gens se sont demandé si entre Sir Edwin Landseer et moi, cela avait été une simple passion d'art. Point de suspension.
On va y venir. Voilà. Ouais, on va y venir effectivement. Alors, ce qui est bien, c'est que vous me lancez sur la question d'après. Quelle différence vous faites entre un roman et une biographie ? Parce que c'est quand même une biographie, mais romancée.
Alors, je suis chercheur, j'ai une formation de juriste et d'historienne de l'art. Donc, j'estime que quand on prend un sujet historique avec un personnage qui a existé, on n'a pas le droit d'écrire n'importe quoi. Donc, on a un devoir. Ce devoir, c'est d'être rigoureux et d'être exact. La biographie demande d'être exhaustif et de fouiller tous les aspects. Donc, comme mon André Le Nôtre ou mon Perrault, ensuite, on a sorti ça avec des notes de bas de page, etc. Le roman, c'est beaucoup plus concis. On choisit une veine, on choisit un moteur et on ne raconte pas forcément tout. Et donc, c'est le choix que j'ai fait. Et effectivement, vous avez raison. Chaque chapitre, ce sont des chapitres très courts. Ils sont historiquement datés, ils sont localisés et ils s'appuient sur un fait historique vrai.
Et c'est le même travail à la base, hein. Il faut quand même
c'est exactement le même travail.
C'est extraordinaire.
Oui,
c'est le même
travail. Mais c'est intéressant votre question parce que une biographie, quand on travaille, les historiens ont des bureaux qui ressemblent à des montagnes. Oui. Et donc on a énormément de choses, énormément de matière, on vérifie, etc. etc. Pour le romancier, on a le même bureau. Simplement, moi, je change de place. Donc je vais me mettre dans un fauteuil. J'ai mon ordinateur sur les genoux, j'écris toujours mes débuts de chapitre à la main, et puis tout à coup, je suis tentée de dire, hop, je me mets dans mon fauteuil et j'écris mon chapitre d'ingé. Et évidemment, j'ai un plan très détaillé avec les personnages qui apparaissent dans le chapitre, etc. etc. Et en fait, le roman vous emporte, et quelquefois, vous avez prévu de faire entrer dans la scène... plusieurs autres personnages, parce que vous savez tout ce qu'ils font, comme vous connaissez par cœur le siècle dans lequel vous êtes, et l'année, et le lieu, et qui habite dans l'immeuble, etc. Et en fait, ça ne marche pas parce que ce serait trop lourd. Donc, en fait, on élague. Et en fait, c'est l'action qui nous conduit. Voilà.
C'est un beau roman d'amour. Est-ce que j'ai faux quand je dis ça ?
Alors, ce n'est pas du tout le roman que je pensais écrire au début. Ouais. Parce qu'en fait, c'est incroyable. D'abord, je dirais que je me suis un peu lâchée. Et puis surtout, la psychologie du personnage l'a emporté, avec ses faits qui étaient incroyables. Et plus j'ai avancé, plus le puzzle se complétait, et plus tout ce que j'étais en train d'écrire était étonnant, et je trouvais des choses qui le complétaient. Et quand j'ai fini de l'écrire, je suis tombée une semaine après sur un document où les Anglais disaient d'elle qu'elle était la Jenner française. Et quand on lit le roman de Jenner et quand on lit le mien, on comprend très bien le parallèle qui a été fait par les Anglais.
Vous allez me dire c'est le même. Alors, du coup,
non. Pas besoin de l'acheter. Et alors, c'est très très intéressant. Le parallèle, ce sont deux histoires d'amour impossible.
Oui, c'est ça.
Et donc c'est un amour impossible. Rosa Bonheur, c'est l'histoire d'une fidélité. Elle a juré sur la tombe de sa mère à l'âge de 11 ans qu'elle serait vestale de l'art. Dire que l'on est vestale à 11 ans, ça suppose une certaine culture. Ouais. Et quand on fouille dans sa bibliothèque et qu'on se réalise qu'en fait elle avait une excellente culture latine et grecque, c'est tout à fait étonnant. Elle était capable de réciter Aristophane quasiment par cœur et pas simplement les oiseaux. C'était quelqu'un qui avait énormément d'humour, donc ce qui explique aussi qu'Aristophane était certainement son poète préféré. Mais voilà, c'était une très grosse lectrice. À la fin de sa vie, son médecin lui demande de rester couché pendant 5 jours. Et elle répond, eh bien c'est parfait, c'est juste le temps qu'il me faut pour lire les 5 volumes des mémoires de Dumas.
Incroyable.
Alors, les mémoires de Dumas, vous le prenez aujourd'hui, vous allez le prendre, c'est chez Robert Laffont, là, les deux gros pavés. Je vous mets au défi, on se prend chacun 5 jours et on lève le doigt qui aura fini au bout de 5 jours. C'est une énorme lectrice, elle connaissait ce siècle par cœur. Et moi, ce qui m'a fascinée dans le personnage, et c'est aussi ça qui m'a emportée, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les détails, etc., c'est le fait que toute la première partie du roman, c'est tout son entourage parisien. C'est pas compliqué, quand on va au musée d'Orsay, actuellement on voit l'exposition Rosa Bonheur et on voit les deux lapins avec les carottes. Il y a une question qu'on se pose très légitimement, c'est, elle a 19 ans, à ce moment-là, c'est exposé donc dans la grande galerie du Louvre. Il y a 2000 de cette année, je ne sais plus si c'est 2100 ou 2500 tableaux, enfin il y a les listes, tableaux exposés. Très honnêtement, il y a bien d'autres peintres importants. Comment se fait-il que cette jeune fille de 19 ans, qui sort ses petits lapins et puis un mouton et une chèvre, puisse être repérée ? Est-ce que honnêtement, on peut dire, comme certains le disent, qu'elle s'est faite toute seule ? Ben non. Non, dans l'art, enfin, il y a plus d'artistes qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas été mis en valeur, les réseaux n'ont pas fonctionné, etc., que d'artistes qui vont émerger. Le talent est essentiel, et je crois que ça n'est rien enlevé à son talent que de mettre en valeur les réseaux sociaux qui ont permis l'émergence de ce talent. Et ça m'a fascinée, comme ça m'a fascinée pour André Lenôtre, pour Chapéro et tous mes livres, c'est de comprendre l'environnement. Donc moi, voilà, j'adore les puzzles, et j'aurais peut-être pu être commissaire de police, je ne sais pas, j'adore suivre les indices. Et donc, quand on prend un immeuble, on sait que le père a habité à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, on reprend les archives de l'époque, on reconstitue l'immeuble. Qui habitait dans l'immeuble ? Eh bien, quand on s'aperçoit que, on sait que Rosa Bonheur, très vite, elle a gagné sa vie dès l'âge de 11 ans, à 14 ans, sa famille subsistait grâce à elle. Mais comment ? Par exemple, dans l'immeuble, 2 immeubles plus loin, là où elle habitait à côté, il y avait l'Exartoriski, donc prince polonais immigré, qui n'avait pas encore acheté l'hôtel Lambert. Et la princesse Exartoriska organisait des ventes de charité. Et elle demandait à Rosa Bonheur des toiles qu'elle vendait cette vente de charité, ce qui explique qu'il y a des toiles de Rosa Bonheur en Pologne. Et bien ça, c'est quand même aussi très intéressant. Donc les mêmes Czartoryski reçoivent ensuite à l'hôtel de Lambert, George Sand, Chopin, évidemment, Chopin a été très très souvent là-bas. Et donc il y a tous ces cercles qui se mettent en route. Et voilà, dans le même immeuble, il y a des historiens qui sont là, qui vont présenter à la fois Victor Hugo et Alexandre Dumas. Et ça change tout. Le seul tableau historique peint par Rosa Bonheur, ce sont les 3 mousquetaires. Elle le dira elle-même, un tableau très mauvais. Elle raconte ça dans une lettre. très mauvais, mon tableau des Trois Mousquetaires. Mais le coupable, c'était Papa Dumas. Elle l'appelait Papa Dumas. Il se connaissait très, très, très bien. Et à la fin de sa vie, quand elle va recevoir la rosette de la Légion d'honneur, donc d'abord la Légion d'honneur par l'impératrice Eugénie, puis par le président Carnot, la rosette, eh bien, ses amis, les sculpteurs, donc la famille de Pierre Julemaine et donc celle génération en dessous, les Quint, hein, avec notamment Henri Quint qui était conservateur au musée Carnavalet, etc., donc une société très intéressante, eh bien, ils vont décider de donner un dîner en l'honneur de Rosa Bonheur. Donc elle est un peu sauvage hein, quand même, Rosa Bonheur, même si elle est reçue par exemple, là je suis encore tombée sur des lettres d'Alexandrine de Saxe-Cobourg-Gotha qui lui écrit des lettres mais extraordinaires, qui montrent l'intimité de ces deux femmes qui vont de jardin en jardin à Nice, etc. Eh bien là, un dîner, une dizaine de personnages choisis, et c'est intéressant de se demander qui était à ce dîner. Alors, Henri Quint, le conservateur, donc on se dit c'est un personnage sérieux, on peut compter sur les historiens pour raconter l'histoire, n'est-ce pas ? Eh bien, notre conservateur dit « J'ai interrogé mon frère, etc., etc. » parce que je ne me souviens plus bien qui était, mais il y avait notre bande habituelle, il y avait entre autres Alexandre Dumas-Fils, il y avait Labiche, Eugène Labiche, il y avait le peintre Jérôme, etc. Très bien, le peintre Bonnat et tout. Si ce n'est que quand on regarde dans les archives de la famille les cartons d'invitation, les cartons de réponse, eh bien, on se rend compte que, par exemple, Jérôme n'était pas là parce qu'il répond même à son ami Quint, cher ami, quelle guigne, j'ai accepté le même jour un repas qui est organisé en mon honneur et les enfants, mais je ne pourrais pas voir ma chère Rosa. » C'est intéressant. Il y a un autre invité répond. Je crois que c'est de taille, je ne sais plus. Répond comme je regrette de ne pas pouvoir être là, ça m'aurait donné l'occasion de connaître Rosa Bonheur. Donc, vous voyez, entre les souvenirs d'une personne qui dit y avait comme d'habitude notre société. Alors, évidemment, on se dit ah, elle était intime de tout le monde. Non, non, non. C'est pas parce que quelqu'un invite des personnes en votre honneur que vous connaissez toutes les personnes qui sont là. Donc vous voyez, il y a toujours le recul à faire et l'enquête à mener. Et alors, moi, ce qui m'a fait vraiment faire rire, c'est que, et ça montre bien l'esprit potache et drôle des artistes, c'est qu'en fait, ils avaient prévu comme décoration, ça l'a enchanté, ils avaient mis un grand cactus en hommage à son caractère un peu piquant et qui était constellé de rosettes de la Légion d'honneur. Ça devait être ravissant, vert et rouge, vous voyez. Mais c'est un peu, voilà, le contexte. Et à la fois le contexte de l'écriture, le contexte de Rosa Bonheur. Et voilà, je me suis beaucoup amusée.
Ce qui est fantastique, c'est que j'étais en train de me dire, mince, les historiens dans 150 ans, alors que nous, on n'a plus de cartons-réponses, etc., on n'a plus que des SMS, et encore, quand on répond, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Voilà, bon courage à eux, évidemment. Ce qui est curieux, c'est quand on fait un micro-trottoir, on pose la question sur Rosa Bonheur, équipe de France de foot ou... Non, on ne sait pas. Hein. Personne ne connaît.
Alors...
Pas à Bordeaux, hein, mais ne trichez pas.
Hein. Non. Et à Paris, les jeunes, ils connaissent tous les Rosa Bonheur. La Péniche et les Guinguettes. Il y a quatre endroits à Paris où on peut aller voir des trucs.
Pas ceux que j'ai
interrogés.
Voilà. Bon, pas de chance.
Mais c'est vrai que c'est une liste
aussi peu connue.
Alors, deux raisons. Alors, les féministes diront... donc je vous ai déjà presque tout dit en vous disant ça. Oui, les femmes passent toujours dans les oubliettes de l'histoire, ce sont les premières et blablabla. Non,
ça ne marche pas.
Ça ne marche pas parce que les hommes, c'est pareil. Donc,
oui, il y en a d'autres.
Donc il y en a d'autres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle elle a aussi été fidèle à un style de peinture qui était passé de mode. Et même si elle s'est renouvelée, de toute façon, c'est l'impressionnisme qui l'a emporté. Ouais,
parce qu'elle peint après l'école de Barbizon, en fait. Hein. Elle est
pas non, c'est en même temps. C'est en même temps et elle avait des liens. Alors, c'est très amusant parce que dans les mémoires d'Anna Klumke, on dit qu'elle n'avait aucun lien, elle ne frayait pas avec Barbizon. Ce sont les Quint qui disent « ne frayait pas avec Barbizon ». Si ce n'est que, dans les affaires de Rosa, on a découvert un très beau portrait au crayon de Jean-François Millet. Donc, qui était à Barbizon, de face et de profil. Et puis moi, j'ai encore trouvé un autre lien un peu plus tard, la veuve de Millet, qui fait partie du même cercle féminin que Anna Klumke, son héritière. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui doivent encore être éclaircies.
D'accord.
Ouais. Si, on est à Versailles. Est-ce que je peux raconter un petit truc ?
Je vous en prie, vous êtes chez vous.
Oui, parce qu'on est à Versailles, et Versailles a joué un rôle quand même important dans la vie de Rosa. Une première anecdote... C'est que sa première robe blanche, elle l'a eue pour venir à Versailles. Et Lady Cocknair, qui était la veuve de l'amiral qui a commandé le vaisseau qui a emmené Napoléon à Sainte-Hélène, qui la lui a offerte, et pour faire son premier voyage à Versailles. Et je pense qu'elle venait au château de Versailles pour voir les toiles d'Hubert Vernet, puisqu'elle a été très protégée par les Vernets. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, très amusante sur Versailles, c'est le fait qu'à Versailles, au château, vous avez le vrai portrait de Rosa Bonheur. Parce qu'il y a eu trois portraits qui ont été faits par Dubuffe, avec cette fameuse Rosa Bonheur appuyée sur un bœuf. Alors certains m'ont dit « Ah, c'est un petit taurillon ». Alors, j'en ai dit « Écoutez, c'est peut-être un taurillon. D'abord, on ne voit que la tête de ce jeune animal, donc je ne peux pas soulever le bas d'une toile qui n'existe pas, premièrement, pour vérifier. Et deuxièmement, on a beaucoup dit « Ah oui, elle s'est formalisée parce que le peintre, qui est quand même un des plus grands peintres portraitistes de cette époque, l'a représentée appuyée sur un guéridon. Elle ne s'était pas formalisée quelques années auparavant que son frère, Auguste, en ait fait autant. En revanche, les peintres sont assez... ne manquent pas d'esprit. Et de Dubuffe à Dubuff, ça a certainement dû être une blague. Alors l'actuel propriétaire du château Rosa Bonheur clame partout que le portrait qu'on lui a prêté est l'authentique parce qu'il est très bien peint et qu'il n'y a pas des gribouillis comme celui du château de Versailles. Bah, si ce n'est que pour moi, celui de Versailles est absolument authentique pour plusieurs raisons. Entre autres, d'abord, c'est vrai que c'est pas très bien peint, il y a les poils qui sont sur la main, etc. Mais ça montre aussi la rapidité d'exécution, et deux peintres dans ce milieu-là, on voit très bien comment ça fonctionne, donc c'est la première chose. Et puis deuxièmement, ces éclats, ces déchirures dans le tableau correspondent à quelque chose de très très très, très précis que je raconte dans le roman.
Effectivement, et pour ça, il faut lire le roman. vous en faites une sorte...
Puis il y a les archives qui montrent une filiation. Donc, voilà, bien...
Le château, donc, c'est pas très loin de Fontainebleau, hein, juste pour oui. dire... En Île-de-France. J'ai eu l'impression en lisant que vous en faisiez une sorte de précurseur de femme du 21e siècle. Elle est à la fois féministe, elle aime la nature, elle a une passion pour les animaux. Elle pourrait, faire partie de l'association L214, par exemple. J'exagère un peu le propos, mais...
Oui, alors là je vais froncer les sourcils. C'est très bien qu'on trouve... c'est très bien que l'on trouve un écho dans l'histoire à ce que l'on vit aujourd'hui. Parce que c'est en ça que l'histoire est une éducatrice, hein, même si on ne l'écoute pas toujours. Le personnage résonne de manière avec une acuité particulière pour nous, c'est aussi l'époque, hein. Le 19e siècle, avec toutes ces révolutions. Enfin, n'oublions pas que Rosa Bonheur, elle quitte Bordeaux pour aller à Paris dans une diligence tirée par des percherons. Il faut 3 jours et 2 nuits. Quand on est la côte monte, et ben on descend, hein, de voiture, et puis on a le temps de marcher à côté, et on remonte en voiture. Et bien, quelques années plus tard, elle fait tout ça en chemin de fer. Hein. Donc, c'est la révolution industrielle, c'est quelque chose qui bouleversé cette époque, comme nous, on connaît la révolution du numérique. Oui. Hein. Donc ce sont des révolutions. Elle a connu une pandémie, le choléra, qui a été autrement meurtrier. Hein. Nous avons connu la Covid, comme vous voulez. Donc oui, il y a des parallèles, et c'est en ça qu'elle résonne de manière intéressante. Là où elle est très en avance sur son temps, c'est un personnage qui, comme beaucoup d'enfants, d'artistes, a ce côté un peu ingérable, à la fois le sens des conventions, car Rosa Bonheur avait le sens des conventions. Par exemple, certes, elle portait le pantalon, mais pas comme George Sand en public. Elle ne l'a jamais porté en public. Elle ne le portait que chez elle. Elle a accepté de peindre, mais elle est moderne en cela, c'est-à-dire qu'elle a refusé de prendre un prénom masculin, hein, comme par exemple ses amis, par exemple le portrait d'Achille Fould, eh bien, c'est une femme qui se cache derrière. On a comme ça plein d'exemples de peintres ou d'artistes qui ont pris des prénoms masculins pour exister. Elle a eu le courage, et là elle est étonnamment moderne, de garder son identité. Donc c'est une femme surtout qui est intéressante parce qu'elle a un courage immense. C'est son courage qu'on peut saluer. C'est une belle personne. Elle est extrêmement généreuse, très généreuse. Elle est drôle. Et là où elle est absolument étonnante et moderne, alors on a beaucoup dit que, évidemment, elle était forcément homosexuelle puisqu'elle a vécu 50 ans avec une première femme et 10 ans avec la seconde. Alors, 50 ans avec la première, ça ne marche pas parce qu'on a quand même les adresses des personnages. Donc, Nathalie Mika habitait chez sa mère, donc à une adresse précise, et qui est, comme Nathalie Mika était également peintre, on a les adresses. Donc, elles n'habitaient pas ensemble. Rosa a demandé à Nathalie et sa mère de venir habiter avec elle quand elle a acheté ce château à la campagne pour pas être toute seule. Et les deux femmes ont beaucoup hésité à venir et elles n'ont accepté qu'en rédigeant un contrat. Et donc, on est vraiment dans des relations de sororité. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très important. Et la notion de sororité, on l'a un peu oubliée, de même qu'on ne sait plus ce qu'est le béguinage. Et moi, j'étais à Bordeaux et je suis intervenue devant le Lyceum Club, qui est une création de femmes à la fin du 19e siècle. Et ça m'a beaucoup intéressée parce qu'elles en parlaient. Ce qui a fondé ce club, qui existe en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout dans le monde, c'est les relations de sororité entre les membres. Alors, aujourd'hui, on dit... Forcément homosexuel. Ah non, 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 elle était même bi. Bon, écoutez, de toute façon, on n'est pas dans les chambres à coucher. N'empêche que, quand vous regardez les dessins de Rosa Bonheur, ce qui est très intéressant, sa peinture est une peinture animalière, sculpture animalière, mais ses dessins, il y a, vous prenez chaque personnage de tableau peint qui disparaît parce qu'elle met en valeur l'animal, elle faisait partie de la SPA, hein, ce qui n'empêchait pas de tirer sur les animaux et d'en manger. Chaque personnage est, dans le dessin, représenté avec une maîtrise du crayon absolument incroyable. Donc, c'est une grande dessinatrice. Le dessin prime sur la couleur. Hein. Elle est vraiment en ça, elle a été formée en ça par son père. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit surtout que des portraits d'hommes, et des magnifiques portraits d'hommes. Alors que elle n'a vécu que 25 ans avec Nathalie et dans la même maison, et ça a été houleux, et avec la mère de Nathalie qui était sa mère adoptive. Et ensuite, la seconde, celle à qui elle a tout légué, c'est pas 10 ans, elles ont correspondu 10 ans. Enfin, l'une était, il y a l'Atlantique qui les sépare, et il y a eu une année, moins d'une année de vie commune, puisque Anna arrive en juin et Rosa meurt en mai. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas 10 ans, c'est quelques mois. Alors, évidemment, il peut se passer bien. Enfin, c'est une vieille dame de 77 ans. On va remettre... oui, et entre-temps, j'ai découvert cette affaire de Landseer. Donc, c'est quand même assez intéressant.
Alors, justement, Landseer, c'est ma dernière question. Ah oui, la plus importante, évidemment. Ça a un lien avec les lions. Elle adorait les lions, en plus. Donc, Landseer.
Landseer, écoutez, oui, non, vous lirez.
Vous lirez, voilà.
Voilà,
merci.
Premièrement. Et deuxièmement,
il faut lire.
Elle a cette phrase très énigmatique. Toujours dans ses mémoires, elle dit à un moment donné, elle avait cette propriété à Nice, et elle s'arrête souvent à Marseille, et elle va au zoo, et à un moment donné, dans ses mémoires, un endroit, mais vraiment... si vous les lisez, surtout ne lisez pas la version de poche par Natacha Henry, parce qu'elle ne prévient pas dans la préface que le texte est tronqué. Donc il y a de temps en temps trois petits points. Bon, ça c'est vraiment quand elle a vraiment enlevé beaucoup, mais même dans certains paragraphes, il manque des bouts de phrases. Donc ça, je trouve ça mais scandaleux, parce que c'est vraiment manipuler l'histoire. Bon. Donc on comprend très bien qu'on puisse faire des éditions abrégées, pourquoi pas, mais en l'occurrence, quand on l'abrège pour justement ne s'intéresser qu'à deux femmes et expurger tout ce qui concerne ces cercles, ça je trouve c'est la malhonnêteté. Donc lisez la grande version, voilà. Et toujours là-dedans, elle dit à un moment donné, j'ai pris dans mes bras le fils de Nero. Et je me suis dit, mais on s'en fiche. Enfin, quel est l'intérêt de ce détail? Si ce n'est qu'ensuite, je me suis rendu compte que quand elle a eu ses deux premiers lions, un lion et une lionne, elle a appelé le mâle Nero. Et je me suis dit, c'est quand même drôle, pourquoi Nero? Et toujours en cherchant sur Landseer, je me suis rendu compte que Landseer, un de ses premiers dessins, il avait 11 ans, c'est un magnifique dessin de lion. Ce lion s'appelait Nero. Wow. Et ce lion, elle l'avait vu, ce dessin, elle l'a vu chez lui.
Aha.
Un des premiers indices. Et j'ai trouvé toute une série de choses assez invraisemblables, comme un tableau peint en commun. qui était juste inventorié, parce que je connaissais mal Ansir, et donc heureusement, enfin vous savez, il y a 30 ans ou 40 ans, on était obligé d'aller dans les archives et faire tous les musées du monde pour tout voir. Maintenant, grâce à Internet, on peut aller dans tous les musées du monde et faire toutes les bases d'inventaire. Donc moi, j'ai fait tous les musées, tous les Ansir, je les connais tous.
Sans sortir voilà. de chez soi.
Sans sortir de chez soi, ce qui est quand même assez commode, ce qui ne donne pas la matière ni le toucher. Oui. Mais si vous voulez, quand je suis tombée sur une base de données américaine, tableau d'Ansir avec le chevreuil baissé, la balle perdue qui était attribuée simplement à l'Ansir, maintenant ils ont corrigé, je regarde, je zoome, etc., etc., et puis je vois en bas que le tableau était peint par l'Ansir, mais le paysage était peint par Rosa Bonheur.
Parfait.
Voilà. Alors, il y a la magnifique exposition qui est à Arcet jusqu'au 15 janvier. Il y a un catalogue d'expositions. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les romans, ils peuvent acheter le. Ou en plus, comme vous voulez, le catalogue de l'exposition. Et dedans, j'ai écrit deux essais, dont un sur les réseaux sociaux de Rosa Bonheur. Je n'ai pas pu parler des réseaux anglais parce que le sujet avait été préempté par. Par quelqu'un d'autre, donc je n'ai pas pu tout dire, mais c'est pas grave.
J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau. Merci beaucoup, Patricia Bouchenaud-Deschamps. Merci infiniment. Voilà la fin de ce numéro d'Expresso. Retrouvez toutes nos interviews sur timelinepodcast.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel invité.